Résonance sur Radio B, Alain Goudard. Bienvenue à toutes et à tous, une émission réalisée et mise en onde par Simon Deborne. Résonance, comme vous le savez, parcourt les routes d'ici et d'ailleurs pour aller à la découverte d'initiatives, de projets culturels et artistiques pour d'une part mieux en parler et d'autre part confier la parole aux porteurs de ces initiatives. Aujourd'hui, Résonance peut enfin, après ces longs mois de suspension, reprendre la route avec un très grand plaisir, avec l'envie de vivre de nouvelles et enrichissantes rencontres. La route du jour nous entraîne, chemin faisant, sur la rive nord du lac Léman pour une halte dans la capitale du canton de Vaud, Lausanne. Une ville dans laquelle on ressent une certaine douceur de vivre, avec notamment ses jardins et puis bien sûr le lac Léman qui lui aussi nous propose un magnifique miroir d'eau qui agit comme un effet apaisant. Alors, une visite chez nos voisins suisses pour aller à la rencontre d'une belle initiative, le festival Court Circuit, un festival qui a pour objectif de promouvoir la diversité et les différences, un festival d'art inclusif qui se déroule à Lausanne les 5 et 6 juin 2021. Résonance sur Radio B pour évoquer cette aventure humaine, musicale et pour échanger ensemble sur les enjeux artistiques, les questionnements, les réflexions que sous-tendent ce rendez-vous. Plusieurs invités m'ont rejoint autour de ce micro et j'ai le plaisir d'accueillir en premier lieu Lise Gremion. Bonjour.
Bonjour.
Et je précise donc, vous êtes professeur inclusion et inégalité scolaire à la Haute École pédagogique du canton de Vaud à Lausanne, mais qu'en même temps, vous êtes une tout juste retraitée.
Absolument, juste, voilà. Juste.
Et puis, je me tourne vers vous aussi, Léa. Léa Gavina, bonjour.
Bonjour.
Ravi de vous accueillir dans cette émission.
Merci.
Et puis on aura le temps d'en parler, mais vous vous êtes lancée aussi dans la musique, vous êtes chanteuse et vous faites partie aussi donc du band d'Ebenezer depuis
oui.
quelques années.
Ouais.
Voilà.
Oui.
Bienvenue à vous.
Merci.
Bonjour Sylvain Jacquard.
Bonjour.
Merci d'avoir aussi accepté cette invitation.
C'est un plaisir.
Et on va avoir, je pense, grand plaisir à échanger ensemble avec l'ensemble de nos invités. Vous êtes le directeur encore pour quelque temps donc du Conservatoire de musique neuchâtelois depuis déjà je crois 2013.
Exactement. Ouais. Hein.
Et puis que votre alors on parlera aussi il y a un ensemble aussi instrumental que vous dirigez aussi également. Et puis bientôt vous allez avoir une nouvelle fonction en prenant la direction de la Haute École de musique du Valais.
C'est ça. Voilà, je me réjouis de rejoindre l'équipe de l'EMU.
Un très beau parcours. Et puis, je me tourne vers vous, Gilles. Bonjour.
Bonjour.
Gilles Eichhorn, c'est ça, je prononce correctement.
C'est ça, exact.
Ravi aussi de vous avoir à ce micro. Vous aussi, vous êtes embarqué dans la musique, et notamment la chanson française. Vous adorez chanter.
Oui.
Je crois ça pratiquement depuis 1996.
Un peu plus.
Un peu plus. Très bien. En tout cas...
J'en dirai plus tout à l'heure.
Voilà, exactement. On aura le temps d'aller plus loin.
Oui. Hein ?
Et puis, très heureux aussi de vous accueillir, Alfonso D'Angelo.
Oui, tout à fait, bonjour.
Et donc, vous êtes plutôt animateur et vous appartenez donc à la Fondation d'Ebenezer, dont on va parler, et où réside justement le projet dont on vient d'entendre parler par Gilles.
Oui, tout à fait.
Très bien. Et puis, bien sûr, bonjour Gilles Baucher.
Bonjour.
Merci encore de l'accueil. De fait, on va préciser aussi qu'on est dans la maison de quartier de Chailly aussi ici, et c'est important parce que Elle a, c'est un acteur culturel essentiel dans ce quartier.
Oui, exact.
Et puis, elle nous permet aujourd'hui de réaliser cette émission. Et puis, elle accueille aussi une partie de votre festival.
Ah, l'intégralité du festival, ah. Carrément.
Alors, peut-être, Gaëtan Bauchet, on peut commencer par là. C'est-à-dire que, du coup, ce lieu accueille votre festival qui s'intitule donc Court Circuit. Et que vous essayez, pour vous, de créer du lien social aussi et d'encourager à l'ouverture les interactions entre les artistes, visiteurs, bénévoles, organisateurs. Peut-être en quelques mots, comment est venue l'idée de mettre sur pied cette manifestation ici, autour de ces idées ?
Alors, c'est une longue gestation.
J'imagine. Ouais.
Au cours de laquelle j'ai pu rencontrer pas mal de personnes, notamment Lise et Sylvain, qui ont été très importants dans ce développement de la pensée et de la genèse du projet. Et puis, on a accueilli aussi le Band d'Ebenezer lors du festival, la première édition du festival. Donc, déjà, je suis très content que ce moment puisse arriver, puisque c'est la rencontre de un peu tout ce qui, voilà, tout ce qui symbolise un peu le projet à son essence. Pourquoi ce projet ? C'est parce que le constat, c'est que actuellement la société est très cloisonnée, et normée, et on a de la peine à voir la diversité comme une richesse. Et il était pour nous essentiel de proposer un moment d'accessibilité maximale, c'est-à-dire que notre objectif, c'est que le plus de monde possible puisse accéder à la culture, consommer de la culture et aussi à pratiquer. La musique en particulier me touche, puisque je suis musicien et pédagogue, mais on constate que souvent l'accès à
ces lieux de pratique,
à la pratique artistique est souvent un petit peu rencontre de plusieurs barrières, et souvent la musique est considérée comme un moyen de thérapie. Donc c'est
vous aviez pas envie de vous inscrire dans ce champ là
c'était pas du tout le propos, et je crois que tous les gens qui sont autour de cette table sont bien conscients que la musique, elle a une valeur pour elle-même, et la pratique de la musique a une valeur pour elle-même, et la pratique des arts en général.
C'est vrai qu'il y a souvent un petit peu, le débat existe en France et dans de nombreux pays encore, cette clarification est toujours un peu délicate entre la musique ou l'art pour soigner, la pratique artistique en tant que telle. Il y a des voyages, si je peux dire, un peu d'interprétation, de posture aussi, qui font que quelquefois il y a des zones de brouillement et qu'on a du mal, mais effectivement je pense que c'est aussi important de clarifier.
Oui, voilà, en fait nous, notre posture à nous, c'est de dire que la pratique artistique devrait pouvoir être accessible à tout le monde, quels que soient les freins que chacun rencontre dans sa vie, voilà. Que ça ne soit pas, compliqué. Voilà.
Il y a en 2002 la loi fédérale aussi qui existe sur l'élimination des inégalités, frappant notamment les personnes en situation de handicap. Et elle a essayé de contribuer à essayer de réduire peut-être aussi ces inégalités. De votre place à vous, certainement que j'imagine une multiplicité d'initiatives artistiques se déroule aussi sur le terrain, et on en connaît par exemple sur Genève, je pense à Autrement Aujourd'hui, on pourra en citer peut-être d'autres qui aussi œuvrent depuis de nombreuses années. Mais malgré cela, quel regard vous portez ? Il y a ces désirs donc au travers de la loi qui sont des espaces aussi importants pour pouvoir faire avancer la communauté dans un certain état d'esprit, d'accompagner aussi ceux et celles qui ont besoin aussi de trouver une place dans cette société. Mais vous sentez que néanmoins, on sait que l'art c'est aussi à de l'entre-soi, hein, il n'accepte pas forcément tout le monde,
en fait,
qu'il y a ses barrières, qu'il y a ses modes de fonctionnement, et que tout ça peut contribuer encore à trouver ces difficultés de faire que tout le monde puisse avoir accès à ces pratiques.
Oui, le constat, c'est que la loi, elle a bientôt 20 ans. Je pense que Lise pourra peut-être vous en dire plus, mais qu'actuellement, les initiatives sont encore très isolées. Certaines existent depuis 30 ans, 40 ans. Elles ont très peu de visibilité, et nous, on est là pour ça, en fait. On essaie de justement valoriser ce qui existe déjà.
On voit qu'il y a des initiatives, par exemple, pour la mise en visibilité. Je pense, par exemple, à la Fondation Clairvoy et l'émission Singularité, par exemple, télévisuelle, qui apporte aussi, et en plus, qui sont des journalistes aussi en situation de handicap, qui sont accompagnés, mais qui font un travail de mise en visibilité aussi. Il y a quelques initiatives de cet ordre. Je pense à Mirart aussi, en même temps.
Énormément d'initiatives, en fait. Il y a énormément de choses qui sont mises en place mais qui peinent à s'agglomérer, je dirais. Et la loi a été votée, mais en pratique, les conservatoires sont encore assez globalement fermés, à part quelques exceptions qui mettent en réflexion, qui mettent des choses en place pour que les choses avancent. Mais il y a encore des améliorations possibles, je dirais, sur ces questions-là.
Alors peut-être, Gaëtan, merci déjà pour cette première approche et nous y reviendrons dans notre échange. Je peux me retourner vers vous, Gilles Eichhorn, puisque vous avez eu envie, vous, à un moment donné, de vous lancer aussi dans cette expression musicale, en tout cas le texte. Vous pouvez nous dire un petit peu comment cette rencontre, cette envie aussi de vous dire tiens, c'est la musique, c'est les mots qui peuvent être qui peuvent servir à dire un peu ce que je ressens, ce que j'observe, ce que je vis.
Je vais essayer de répondre à votre question parce que je l'ai comprise, mais comme c'est le matin, on essaye de...
Voilà, oui, vous avez raison. Alors, je précise pour nos auditeurs que cette émission, elle est enregistrée à Lausanne, dans la maison des quartiers de Chailly, et qu'on est un dimanche matin, 6 juin. Et voilà, elle sera diffusée à son horaire habituel. D'accord. Mais effectivement, nous sommes du matin, voilà. Je vous en prie, Gilles.
Et votre question, c'était ?
Bien, comment vous avez eu envie un jour de vous dire, tiens, allez, je me lance dans cette pratique musicale ?
Alors, comment
donc, qu'est-ce qui était le déclencheur?
Au début d'être chanteur au sein du Ben d'Ebenezer, j'ai toujours eu la passion de l'imitation, tout. Et comme déjà j'ai un âge, je dirais pas quoi, mais passé 40 ans.
Tout va bien.
J'en ai 47, voilà, pour dire. J'aimais beaucoup à l'époque, mon idole, c'était l'imitateur Patrick Sébastien. Mmh. Et c'est en le voyant imiter Bourvil et toutes ses imitations que j'ai eu envie, entre guillemets, de faire ce métier. Mmh. Et en arrivant ici en 1991, je crois, ouais, c'est ça, j'ai rencontré un ex-animateur du centre de loisirs qui s'appelait Jean-François Rochaud. Mmh. Qui m'a mis le pied à l'étrier qui voyant mon talent faisant des concerts et tout, m'a dit écoute, si ça te fait plaisir, on monte un petit truc ensemble. Voilà. Mmh. Au début, j'étais un petit peu réticent parce que je me demandais qu'est-ce que c'est ça. Mais après, au fil des années.
Vous avez trouvé plaisir.
Ah oui, énormément. Mmh. Énormément parce que ça m'a aussi aidé à un peu m'ouvrir aux autres, tout, et puis tout ce genre de choses. Et puis par la suite, quand il y avait Monsieur André Gex, qui faisait partie aussi du Ben d'Ebenezer, qui n'est plus là malheureusement et que je salue, si une fois
Je me permets. Il n'est pas mort. Hein, comme tu l'as dit, il est à la retraite.
À la retraite. Il y en a d'autres un peu plus.
C'est un peu bizarre de l'entendre comme ça.
Oui. Mais c'est aussi les rencontres. À un moment donné, il y a des gens que nous rencontrons. Et puis, chacun a son chemin. Et voilà, il poursuit un autre chemin pour l'instant. Mais peut-être, dans ce que vous évoquez, par quoi passez-vous ? Vous chantez ? Vous jouez de la guitare ? Vous jouez d'un instrument ? Vous travaillez les mots ? Comment ça se passe pour vous ?
Alors, je suis uniquement chanteur.
Oui, ce qui est déjà... c'est déjà super d'être chanteur.
Et bien sûr, je suis accompagné par des musiciens vraiment de grands talents. Et là, je pèse mes mots, dont Alfonso et son collègue Kevin Bernasconi. Voilà, j'ai bien prononcé. Et aussi accompagné depuis peu par une super pote, on va dire, pour parler de Jones, qui est Léa Giavina, que voilà, vous avez cité,
qui est
vraiment extra, qui est un talent incroyable, quoi. Et ça aussi, ça m'aide de l'avoir avec moi au sein du groupe. Voilà.
Alors peut-être, Gilles, encore avant, bien sûr, d'aller vers Léa, comment ça se passe le travail de cet ensemble? Comment ça se déroule?
Plutôt bien.
Vous écrivez des... Tout à fait, je pense qu'il y a une ambiance fort sympathique et agréable. Mais ça veut dire, par exemple, vous imaginez un texte, vous imaginez la musique, vous le proposez aux membres de l'ensemble. De quoi est constitué comme les autres musiciens de cet ensemble? C'est, on va retrouver un batteur, des guitaristes, on va y trouver des soufflants ou autre chose?
Alors, nous sommes 9 musiciens. Nous avons,
oui,
un batteur,
oui,
guitare, basse,
oui,
clavier aussi,
mm-hmm,
accordéon,
oui,
quoi donc aussi, deux guitares électriques.
Très bien.
Et chacun apporte son texte,
c'est
qu'il
ça
propose aux musiciens.
Aux autres, ouais.
Et voilà.
Et vous avez déjà, vous, une idée de la mélodie ou du style musical, ou c'est plutôt ces musiciens qui vont vous faire des propositions, des allers-retours avec votre texte? Comment ça va se...
La mélodie vient après.
La mélodie vient après.
La mélodie vient après. On propose un texte, par exemple, sur,
oui,
sur le vieillissement, ou bien, mmh, sur... ou sur la musique, ce qu'elle apporte, tout ça. Et puis après, suivant les goûts des uns et des autres, c'est soit du rock, soit des ballades, ou comme ça.
Très bien. Alors, je vais me tourner vers vous, Léa, parce que vous vivez aussi cette aventure avec Gilles actuellement, avec Gilles Lachaume. Mais plus récemment, comment s'est fait cette rencontre aussi avec cet ensemble Bande des Bénézères? Comment vous y êtes arrivé?
Comment je suis arrivée? Bah, en fait, ça fait combien de temps que je suis...
3 ans.
Et bah, du coup, en fait, bon, moi, depuis toute petite, je chante.
Ah, mmh.
Et du coup, c'est grâce à un éducateur de mon foyer,
oui,
qui m'a dit qu'il y avait justement le band. Et bah, j'ai commencé un après-midi.
Vous vous êtes dit, tiens, puis... ça peut être un endroit intéressant pour moi. Et...
Oui, ouais. Mmh. Et bah, ouais, du coup, voilà.
Alors, est-ce que Gilles nous disait, il passe d'abord par les mots, et puis peut-être que la mélodie vient, et ensuite... les autres musiciens qui sont là vont faire des propositions pour, je dirais, orchestrer, accompagner ces mots. Comment ça se passe pour vous? Est-ce que c'est du même ordre? Vous imaginez déjà les textes, les mots, ou la musique éventuellement?
Bah, j'écris le texte.
Oui.
Et puis, bah, toutes les chansons que j'ai composées, paroles, c'est bah, Alfonso ou Kevin, et puis ils font... On fait un peu, enfin ils font,
qui vont imaginer la musique derrière,
voilà, ou
faire des propositions.
Oui, ouais.
Et quels univers vous aimez au niveau des mots? Qu'est-ce que vous dépeignez comme univers à travers les mots, vos mots à vous?
Dans mes compositions.
Ouais.
Bah, la plupart de mes compositions c'est bah de ce que je ressens la plupart des temps. Bah, la musique, la plupart aussi. Pratiquement toutes mes musiques, toutes mes compos, c'est que ça parle de la musique. Ou sinon, bah, ouais, de la vie, en fait.
Je crois qu'aussi, vous êtes lancé dans la pratique de la guitare aussi.
Oui.
En autodidacte, mais.
Ouais, oui.
Et ça, c'est sympa.
Oui.
Et c'est plutôt guitare sèche, guitare électrique? C'est quelle forme?
Sèche.
Sèche.
Mm-hmm.
Donc, du coup, là, la mélodie vient aussi, vous. C'est des fois, la source des mots, c'est les mots, puis quelquefois vous vous essayez sur la guitare, ou c'est l'inverse, des fois la guitare qui va aussi venir être le support de vos envies aussi d'émotions ou d'envie de dire?
Bah, comment dire? Normalement, enfin souvent, d'abord j'essaie de trouver des accords,
ouais,
puis après la plupart du temps j'écris au fur et à mesure.
Au fur et à mesure.
Mais des fois, j'écris sans jouer.
Est-ce que ça donne aussi bien donc, pour vous, Léa, mais aussi pour vous, Gilles, de côtoyer ces musiciens, est-ce que ça vous est arrivé aussi de rencontrer d'autres chanteurs ou chanteuses qui, du coup, dans leur manière d'écrire les mots, dans leur manière d'écrire leurs chansons, est-ce que ça donne des envies, si ça n'a pas été l'occasion, d'aller rencontrer d'autres aussi qui aussi écrivent des chansons, ou comme vous, envie de traduire ça à travers les mots ? Gilles ?
Bien, moi, en ce qui me concerne, j'en connais pas mal de, enfin, pas mal. Je vais pas me vanter, mais je connais bien un chanteur suisse qui s'appelle Nicolas Michel, K, qui est vraiment un grand artiste aussi, qui écrit des super beaux textes aussi. Je connaissais aussi l'imitateur suisse Yann Lambiel aussi, qui a vraiment un grand talent. Et puis comme ça, de réputation, ben, je connais un peu comme ça Michel Buller et d'autres, quoi. Mais en tout cas, moi, j'aime beaucoup tout ce qui est texte et voilà.
Donc ça vient nourrir aussi. Vous lisez aussi peut-être de la poésie. Vous allez, il y a des ouvrages aussi peut-être comme ça qui vous intéressent. Vous allez fouiner comme ça.
Non, pas à ce point-là. Mais j'ai une grande idole de jeunesse, chanson qui s'appelle Brassens. Je ne sais pas si vous connaissez.
Et un petit jeune homme qui va avoir beaucoup de succès.
Et je l'aime beaucoup, voilà.
Je comprends.
Ils m'aident beaucoup à dans la poésie, la verdure, le langage et tout. Voilà, c'est une personne, c'est un chanteur que j'aime beaucoup, vu que j'ai fait beaucoup de pèlerinages à Sète.
Oui.
C'est. Je conseille d'ailleurs à ceux qui nous écoutent d'aller faire un petit tour parce que. Ouais. Il y a vraiment l'âme
qui est là.
Ouais.
Et pour vous, Léa, il y a des références. Gilles évoque Brassens, mais pour vous, il y a des références comme ça aussi qui sont fortes pour vous, qui vous aident ou qui vous attirent, vous nourrissent.
Oui, moi, lui c'est Brassens et moi c'est Francis Cabrel.
Francis Cabrel.
Ouais.
Qu'est-ce qui vous plaît chez Cabrel, par exemple ?
C'est les textes en fait.
Les textes.
Ouais.
Vous les trouvez comment, ces textes ?
Ils sont juste magnifiques. J'adore. J'adore.
Merci. Alors, on écoute ceci.
Petite mélodie.
Résonance sur Radio B avec l'association Les Drôles d'Oiseaux et le festival Court Circuit à Lausanne. Alors Léa Giavina et puis Gilles Horn, là on vient d'entendre Grâce à toi. Vous pouvez nous en parler un petit peu, ça de l'un ou l'autre. Alors Gilles, Léa, voilà, comment elle s'est fabriquée cette chanson? Vous avez écrit ensemble, comment ça s'est...
Justement, je sais plus comment ça s'est...
Ou c'est un... collectivement.
Oui, vas-y.
Alors, peut-être Alfonso, alors comment ça s'est passé, la création de cette chanson?
En fait, cette chanson a été créée il y a un an.
Oui.
Un an. C'est la première chanson de 10 chansons qui vont constituer le nouvel album, parce que là, on est en train d'enregistrer un album. Et ça, c'était justement la première, juste avant que la situation sanitaire
soit celle que nous connaissons.
Voilà, tout à fait. Et donc, c'est vrai que peut-être, vous ne vous rappelez pas, Léa et Gilles, mais dans ce cas, c'était Léa qui a composé le texte. Elle est arrivée un jour en disant, voilà, elle avait 5 ou 6 textes finalement, parce qu'elle est très prolifique, hein, elle a un pouvoir, un imaginaire, c'est incroyable. Donc on a pris un texte et on a commencé à discuter avec l'équipe, avec les membres du band. On avait envie de faire une chanson rock. Et voilà, on est parti là-dedans. Moi, je proposais un peu des accords.
Oui, parce que rappelons que vous êtes guitariste aussi, Alfonso.
Moi, je joue différents instruments. Mais oui, dans ce cas, voilà, je joue la guitare et finalement. Avec mon collègue, on a proposé une piste musicale et on est parti là-dedans parce que l'équipe était d'accord.
Peut-être c'est l'occasion, Alfonso, de préciser un peu peut-être le statut de cet ensemble au sein de cette fondation. Comment un tel ensemble finalement a été mis en place? Quel est le projet autour de cet ensemble?
En fait, je contextualise d'abord.
Bien sûr.
Je dis que la Fondation Ebenezer, c'est une institution qui héberge des personnes en situation d'handicap ou en difficulté sociale.
Ici à Lausanne.
Ici à Lausanne, oui. Avec l'objectif de donner une place à ces personnes dans notre société. À travers différentes activités, à travers différents ateliers, dont l'atelier de musique. Et donc voilà, c'est ça l'objectif primaire.
C'est ça l'objectif.
Donner la place à ces gens-là dans la société.
Et que la pratique artistique peut être une manière.
Pardon.
Et que la pratique artistique peut être une des manières de
absolument,
faire.
Absolument, absolument. En fait, grâce à cet atelier, on donne l'opportunité à Gilles, à Léa et aux autres membres de l'équipe.
Il y a combien de membres dans cette équipe?
En fait, on est 8, dont 2 animateurs et 6 bénéficiaires, en fait.
Très bien. Et donc, ceux-ci sont instrumentistes aussi, alors quelque part.
Si. Et on leur donne justement, grâce à cet atelier, l'opportunité de s'exprimer à travers la musique. La musique, c'est évidemment un moyen d'expression. Et on le voit justement avec Léa, elle apporte ses textes, quand elle écrit ses textes, elle met sa vie là-dedans. C'est son moyen pour s'exprimer.
Exactement. Il y a cette urgence, je dirais.
Cette urgence. Elle arrive à dire des choses qu'autrement, elle ne pourrait pas dire. Elle ne le dirait pas. Elle le fait grâce à la musique. Et c'est incroyable. Et l'objectif, c'est aussi de valoriser l'énorme talent qu'ils ont. Le valoriser et pourquoi pas le partager avec le public lors des concerts.
Et ces concerts, justement, quels sont les espaces dans lesquels l'ensemble peut justement faire découvrir et partager ce répertoire?
On a joué dans différents cadres, en fait, lors de festivals ou événements privés.
Peut-être, est-ce que c'est des festivals, est-ce que ça va être intéressant? Puis on va voir après l'échange avec Lise Grognon et puis Sylvain Jacquard. On a aussi Gaëtan Bauchet qui dit, tiens, il y a la nécessité de créer une organisation pour laisser aussi des paroles, faire rencontrer. Alors, est-ce que c'est, on rentre dans le tissu, je dirais, culturel habituel, ou on est encore aussi dans certains festivals qui ont une fonction éventuellement autour du handicap et des pratiques artistiques de personnes en situation de handicap?
C'est plutôt ça, je
c'est
dirais.
Plutôt ça.
C'est plutôt ça. Mais je crois que on est en... La société... En tout cas, j'ai l'impression que, de fois, hein, que la société mm-hmm. est prête pour accueillir.
Franchir un cap.
En tout cas, voilà, franchir, faire ce pas. Oui, il faut du temps. Il faut du temps, mais grâce à cette activité, on a eu la chance de rencontrer plein de gens, ici en Suisse et aussi à l'étranger, parce mmh. que...
Oui, parce que vous êtes déplacé hors frontière.
Tout à fait. Ils ont allé au Sri Lanka, au Canada, en Chine. Mmh. C'est prévu un projet pour la Corée cette année. C'était déjà l'année passée, à cause du Covid, on a reporté à voir mmh. si c'est possible de le faire cette année. Mais oui, il y a l'opportunité pour avancer. Là, dans la sociabilité, voilà.
Je vais rebondir sur les propos d'Alfonso, Lise, justement, Grumion, pour aller aussi un peu vers ces questionnements, parce qu'on entend aussi, au travers de cette belle expérience, de cette richesse d'expérience et de l'importance aussi de son existence, que finalement, elle a ses bottes de possibilités de monstration dans un cadre aussi donné. Et comme on vient de le dire, peut-être qu'il faut encore du temps, mais il y a d'autres espaces de démonstration qui seraient aussi possibles. Donc on pourrait parler d'accessibilité, on pourrait comment accueillir cette diversité, ne serait-ce que là, sur le point de vue artistique, ces différents modes. Et qu'on voit que ce n'est pas toujours tout simple de trouver les espaces pour rendre visible, pour aller à la rencontre de l'autre. Donc l'accessibilité, finalement, est assez un nœud central, finalement.
Ben oui, en tout cas, ça, c'est un bel exemple, quand même, magnifique, hein, qui est réjouissant et qui permet de dire oui, on va vers quelque chose qui s'ouvre. En
Absolument.
Tout cas, on
qui donne
y travaille.
Si je peux dire.
Oui. Et puis, il faut s'appuyer sur tout ce qui existe déjà pour pouvoir continuer, trouver l'énergie, parce que pour vous, il y en a besoin aussi pour voyager, pour aller chanter, pour créer. Mais je pense qu'on a besoin au niveau institutionnel aussi d'avoir des références solides qui nous permettent d'avancer. Et je pense à ce début de la Constitution suisse, dans sa révision de 99, qui donne en introduction, qui pose cette phrase, qui dit au fond que la force de la communauté se mesure au bien-être du plus faible de ses membres. Et donc, sur cet effet-là, c'est quelque chose de fort. On peut se baser sur des textes forts aussi, même si tout n'avance pas rapidement, parce que tout le monde n'est pas toujours prêt à l'avance. Mais en tout cas, cette question de l'accessibilité et du lien social, comme disait Gaëtan, auquel il tient aussi beaucoup dans les projets qu'ils font, eh bien, c'est aussi ces éléments-là qui nous ont poussés à mettre en place des solutions, entre autres pour la musique avec Sylvain, sur une musique pour les musiciens, d'accessibilité à des publics dont ils n'avaient pas l'habitude, mais
bien
qui
sûr.
Sont preneurs de musique.
Absolument.
Et où on n'a pas seulement à se préoccuper de l'apprentissage scolaire, des apprentissages de lecture, de mathématiques, mais du vivre ensemble et puis du bonheur de faire de la musique, de l'art, de l'accès justement au bonheur de vivre tous ensemble. Quoi.
Et quel regard vous portez avec toutes les années d'expérience que vous avez derrière vous, justement sur l'évolution de ce contexte, de tous ces éléments que vous avez portés vous aussi avec conviction, avec force sur le terrain et de manière très concrète. Comment vous mesurez, on voit que les choses ont bougé, c'est incontestable chez vous comme chez nous en France, mais on sait bien que c'est un combat perpétuel de toute façon, mais qu'il y a quand même des avancées, ou est-ce que vous sentez qu'on a une période très particulière en même temps dans ce que nous vivons aujourd'hui, mais même en faisant abstraction de cette période qui peut-être cristallise des choses et peut-être fait même craquer des vernis des fois à certains endroits. Comment vous voyez, vous, là où vous avez commencé, tout le chemin que vous avez parcouru, et comment vous voyez cette évolution du terrain par rapport à toutes ces questions de permettre un large public, et souvent un public qui n'avait pas forcément accès beaucoup à ces pratiques artistiques. Aujourd'hui, vous sentez qu'il y a quand même des belles avancées?
Alors, il y a toujours des magnifiques avancées. qui est, c'est que ben, les humains se ressemblent depuis toujours, et puis on va continuer à être des humains avec nos problématiques particulières auxquelles on doit rester vigilant. Et donc, l'histoire du rapport à la différence, on voit bien qu'il y a des choses qui ne changent pas. Il y a des choses qui bougent très difficilement. Mais il y a des mouvements sociaux qui ont fait bouger des choses. Et quand on pense aux droits civiques américains, qui ont permis de faire démarrer beaucoup de choses par rapport à l'enseignement spécialisé aussi, de dire que ce n'est pas seulement la question raciale aux États-Unis, mais c'était aussi, ça touchait les personnes handicapées, les personnes aussi de minorités ethniques, etc. Donc il y a eu une prise de conscience. Et en même temps, en Europe, il y avait une prise de conscience aussi sur la désinstitutionnalisation, les questions de la décolonisation aussi. Et c'est les mêmes moments, c'est les mêmes mouvements qui ont porté beaucoup de choses, qui ont révolutionné aussi une pensée, une manière de voir les choses. Et pourtant, se reproduisent des mêmes phénomènes. Et par exemple, en Suisse, eh bien, c'est difficile de voir l'inclusion s'imposer. Et pour le moment, on en parle, on dit inclusion, mais dans les termes officiels et dans les lois, c'est encore toujours l'intégration. Et en fait, c'est ça la réalité. C'est de dire, on fait une petite place, mais au moins on en fait. Et il y a des espaces où ça se fait beaucoup plus grandement et des espaces où ça se fait avec plus de difficultés, parce que le rapport à l'autre est souvent difficile, et ce changement de regard qui demande de voir l'autre avec la différence qui ne me fait pas peur, parce que tiens, ben, je suis aussi différent par rapport à lui, où on se trouve sur des curseurs où on est toujours celui qui est en difficulté par rapport à quelqu'un et celui qui ne l'est pas par rapport à quelqu'un d'autre. On est multiples.
Ça me fait penser ce que vous dites à une phrase d'une philosophe française, Marie-Josée Monzin, qui dit, et je trouve que peut-être que cette phrase peut aller dans ce sens-là, que nous arrive-t-il quand tout autre arrive ?
Oui.
Je trouve que cette question, la manière de formuler, en tout cas, va totalement dans le sens de ce que vous dites, et met bien la problématique, finalement, où elle est sans cesse à retravailler, bien évidemment.
Oui.
Mais effectivement, qu'est-ce qui nous arrive, finalement ? Qu'est-ce qui fait que... Tellement la rencontre avec l'autre, c'est une prise de risque aussi. C'est un espace où on ne sait pas ce qu'elle va être, la rencontre. On ne sait pas où elle va nous emmener.
C'est toujours difficile. Et je pense que moi, je m'y suis confrontée aussi avec mes élèves. J'ai été enseignante spécialisée pendant plusieurs années. Et ça a été d'excellents professeurs. Ils m'ont obligée à me poser des questions, mais ça m'a renvoyée à ma propre image. Et ce n'est pas toujours facile. Et puis, quand on a eu des facilités pour arriver là où on arrive, ben, il semble que tout le monde doit y arriver de la même façon.
Alors, ce n'est pas vrai, finalement.
Et non, ce n'est pas vrai. Et donc, se confronter à ce que c'est de percevoir le chemin de l'autre pour se dire, tiens, comment on va pouvoir l'accompagner pour qu'il puisse accéder à ce qu'il advienne, en fait. Par exemple, ce que vous faites en musique, de pouvoir avoir des espaces où on ne ferme pas, puis au contraire, on permet ce développement de potentiel, de compétences, qui est magnifique et qui crée du partage pour tout le monde. Et donc ça, c'est un apprentissage qu'on doit faire qui n'est pas toujours simple. Surtout, par exemple, dans l'école, où on est particulièrement des bons élèves qui avons bien réussi. C'est difficile de comprendre aussi, puis de faire comprendre aux étudiants qui veulent devenir de bons enseignants, qui aiment tous leurs élèves, mais qui pensent que tout le monde va devoir faire comme eux.
C'est ça.
Que non, que il faut trouver d'autres chemins.
Peut-être, Sylvain Jacquard, vous aussi, voilà, les chemins, et je sais que vous êtes proche aussi des questionnements que Lise Grumion vient d'évoquer. Quelle perception vous en avez, vous aussi, de votre côté? Alors là, d'une institution qui est autre, on parlait de l'école, mais là aussi, d'institutions importantes dans le maillage des territoires, dans le maillage de transmission de la culture. Alors certes, j'imagine aussi... Comme en France, on a l'institution musicale qu'on peut voir, sans mettre le mot élitisme, en tout cas de tradition, qui emmène dans une certaine direction. Et puis en même temps, on est confronté à ce que nous venons d'entendre, à des diversités très larges d'expressions musicales. Et quelquefois, c'est complexe aussi pour ces institutions qui sont chargées d'un rôle particulier et en même temps d'être... pour certains et certaines, se poser aussi ces questions de comment ça circule, de comment ça vit, et qu'il y a cette circulation et que l'ensemble de la diversité de cette communauté que nous constituons les uns les autres.
Alors, je tiens à dire, quand j'ai pris mes fonctions il y a 8 ans au Conservatoire de musique neuchâtelois, en Suisse, en fait, contrairement à la France, la majorité des écoles de musique et conservatoires sont plutôt d'ordre privé, il y a des fondations, etc. À Neuchâtel, c'est une institution qui appartient au canton, donc qui est étatique.
Étatique.
Donc, ouais. À quelque part, il y a une mission publique derrière le conservatoire. Et quand je suis arrivé, j'ai lu les lois du conservatoire et j'ai pu constater qu'en fait, il n'y avait aucun article qui disait « Attention, la musique doit être réservée uniquement aux enfants bien portants, si possible, issus d'une famille socio-économiquement privilégiée, etc. » Donc, en fait, je me suis dit « Mais tout simplement, c'est une institution qui doit être pour tous, comme d'ailleurs la musique est profondément pour tous. »
Absolument.
Donc il y a 8 ans, nous avons tout de suite mis en place un adage qui s'appelle « Musique pour tous », considérant que ça souffre d'aucune négociation. C'est le conservatoire qui doit trouver des solutions. Si quelqu'un arrive et dit « Je veux faire de la musique », le conservatoire doit trouver une solution pour faire en sorte que cette personne puisse faire de la musique, quelles que soient ses prédispositions. Alors, c'est bien gentil.
Ça, c'est extrêmement important, ce que vous dites.
Mais absolument. Mais justement, alors ça, c'est une chose, c'est d'avoir l'idée. Ça peut être que politique. Après,
il y a le concret.
Parce qu'après, ce qui se passe, c'est qu'il y a la réalité. C'est souvent lié aux représentations des gens.
Tout à fait.
Et j'ai été assez frappé en arrivant quand même. J'avais des professeurs qui me disaient « Ah, mais j'ai vraiment un problème avec tel ou tel élève parce qu'il est dyslexique. » Enfin, voilà. Et je me suis dit, mais est-ce qu'il n'y a pas simplement un problème de méconnaissance, finalement, de ces éléments-là, qui font qu'on a plutôt une peur par rapport à ce qu'on peut peut-être appeler la différence, mais même, je crois qu'on est de toute façon tous différents, quelles que soient nos prédispositions. Donc, à un moment donné, il devenait clair qu'il fallait qu'on trouve une solution pour déjà enlever les craintes, puis pour juste permettre au professeur de comprendre, c'est pas parce qu'un élève est comme ci ou comme ça, ou qu'on lui a peut-être même mis une étiquette, quelle qu'elle soit d'ailleurs, que cet élève n'a pas un droit viscéral et ontologique à faire de la musique. Donc sur cette base-là, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est de trouver des solutions pour former, pour montrer que c'est finalement tout à fait faisable. Mais il faut travailler sur aussi les représentations des gens, des institutions, par exemple. Quand j'appelais les institutions spécialisées du canton de Neuchâtel,
c'est ce que j'allais vous demander. Voilà, comment réagissait-il par rapport à votre point de vue?
Je me rappelle du directeur particulièrement des Persneiges, qui est une des grandes institutions du canton de Neuchâtel, qui me dit « Mais monsieur Jacquard, vous ne vous rendez pas compte comme votre démarche me touche, parce que pour moi, j'étais convaincu que le conservatoire n'était pas pour nos résidents. » Et c'est vrai que donc là, il fallait travailler d'une part sur la formation de nos professeurs, mais d'autre part aussi sur la représentation de la population dans son ensemble, qui se disent « Mais en fait, c'est vrai, moi aussi, mon enfant peut aussi en fait, accéder à la musique. » Mais je peux vous dire, même si ça fait 8 ans qu'on a entrepris toutes les démarches, Gaëtan et Lise étaient bien impliqués au départ, encore aujourd'hui, on voit que ça se heurte à des représentations, à des méconnaissances, que ce soit du côté de nos professeurs, que ce soit du côté aussi des parents. Alors, je ne sais pas si vous voulez que je vous lise une lettre que j'ai reçue la semaine passée.
Je vous en prie, avec plaisir.
Parce qu'elle est très révélatrice.
De mode de représentation.
Absolument. Et des malentendus qu'il y a peut-être aussi souvent.
C'est ça.
Donc je reçois une lettre de parents.
Oui.
Vous me permettez de parler du professeur en disant Monsieur X, hein,
bien
d'accord.
Il n'y a aucun souci.
Voilà. Donc voilà ce que la personne m'écrit. Mon épouse a bien tenté d'expliquer à Monsieur X que notre fils est atteint du syndrome d'Asperger, soit une forme d'autisme peu visible qui affecte notamment sa confiance en soi et sa compréhension des consignes. Monsieur X n'a pas réussi à saisir les difficultés que rencontre mon fils au quotidien et pour lesquelles il bénéficie d'un suivi psychologique hebdomadaire depuis plusieurs années. Pire, Monsieur X a prétendu que mon fils se cachait derrière une étiquette et qu'en réalité il était paresseux. Donc c'est extrêmement intéressant, c'est arrivé la semaine passée que je reçois cette lettre, et on se dit, mais qu'est-ce qu'on en fait de ça? Comment faire en sorte, bien sûr, qu'il y a, lié à ce malentendu, un problème fondamental, où on se dit, non, c'est pas le problème de cet enfant-là, cet enfant doit avoir un professeur qui sait travailler avec lui, c'est donc travailler sur les représentations, travailler sur la formation, parce qu'en effet, Monsieur X doit aussi comprendre finalement...
Faire ce chemin aussi, lui aussi.
Qu'est-ce que ça signifie de travailler avec un enfant, quelles que soient d'ailleurs ses prédispositions?
Absolument.
Et donc, nos professeurs doivent juste être professionnels, en fait. Et leur mission, c'est d'enseigner la musique. La question n'est pas de savoir à qui ils doivent enseigner la musique. La question, c'est qu'ils doivent enseigner la musique.
Alors peut-être, Lise Grumion, on touche à un enjeu effectivement extrêmement important dans la formation effectivement des enseignants, et quels qu'ils soient d'ailleurs, parce que c'est les mêmes valeurs, je dirais, que ce soit un professeur de musique ou peu importe ce qu'on va vouloir transmettre, c'est de comprendre qu'est-ce que sont les enjeux dans cette transmission, aussi bien pour soi-même et aussi bien aussi pour celui qui va être en face, et comment je suis à l'écoute de ce qu'il est, comment je suis à l'écoute, même si je dirais c'est entre les sachants non sachants aussi. Il y a aussi ce rapport-là qui a besoin certainement de travailler pour essayer de trouver l'endroit où la rencontre peut se faire et comment je peux me mettre à l'écoute de l'autre pour suffisamment me dire à cet endroit-là, on peut peut-être se rencontrer.
Mais vous dites ça très bien, hein. Donc, c'est vrai que la difficulté, elle est la même pour les enseignants de n'importe quel niveau et de n'importe quelle matière, au fond. Et là, dans la formation qu'on offre aux musiciens aussi, en disant, ben, pour les professeurs qui s'intéressent à ces publics plus particulièrement, mais c'est vrai que ça les concerne tous, au fond, eh bien, c'est surtout de leur dire, restez des musiciens, mais rencontrer les autres avec ce qu'ils ont, avec leurs particularités, sans vous effrayer, en fait. C'est ça, et c'est cette rencontre de nouveau, cette difficulté d'aller vers l'autre en n'étant pas dans la norme. Hein. C'est Gaëtan qui disait ça tout à l'heure aussi, d'une société qui est très normée. Tout on à demande fait. À l'école d'être très sélective. Sylvain l'a rappelé, les conservatoires, c'était sélectif. Donc, tout le monde s'étonne de dire « Ah bon, on s'ouvre, on peut faire de la musique aussi ». Et puis c'est ça en fait, cet accès de tous qui permet d'entrer dans une communauté. Mais ça veut dire qu'il y a effectivement un travail qui doit se faire sur la représentation que j'ai de l'autre, mais qui est un travail que je dois faire sur moi-même. Et donc il faut l'accompagner aussi, parce que ça fait aussi parfois peur de se découvrir.
Je crois que c'est ça aussi, c'est qu'on sait que de toute façon la rencontre va nous changer, alors on peut avoir cette peur de transformation, alors que finalement... Certes, il va se passer quelque chose, je ne serai pas totalement le même à l'instant X où je rencontre la personne et de ce que va se passer cet échange, ou en tout cas cette rencontre. Je serai encore le même, mais encore transformé et ajouté de quelque chose d'autre. Et peut-être que aussi cet inconnu que je rencontre, c'est peut-être lui que j'attendais et qui va déclencher des choses chez moi que je n'aurais pas soupçonné. Et que c'est simplement cette rencontre qui va aussi pouvoir le faire. Mais ça crée des frayeurs et je vous rejoins aussi beaucoup dans cette idée de... Allez-y, je vous en prie, Sylvain Jacquard, de pouvoir y agir. Où il y a la frayeur, et je vois pour avoir rencontré quelques enseignants, professeurs de musique dans certains établissements, c'est ce que vous souleviez à Lise Grumion, c'est la peur finalement qui est là, de se dire tellement ça me renvoie des choses que c'est cette peur qui est difficile à surmonter et à comprendre.
C'est ça, et je dirais que cette peur, alors il y a d'une part les professeurs, mais il y a... tout le système en fait institutionnel qui doit travailler sur les représentations qu'il a.
Absolument.
Et j'ai juste envie de témoigner. Lise s'en souvient peut-être parce qu'elle faisait partie de la commission de surveillance du conservatoire. Lorsque j'avais présenté en fait le projet justement d'inclusion non négociable, j'ai envie de dire, une personne, mais certainement très très bien intentionnée, hein, de la commission de surveillance, me dit oui, monsieur Jacquard, c'est très bien tout ça, mais il ne faudrait pas que ça se fasse au détriment des élèves normaux. Et ça pour moi, c'était le révélateur qu'en effet, il y a un malentendu profond, en fait. La question de la normalité ne se pose pas. La question est, la musique appartient à tous, et il n'y a pas du tout... La question ne doit jamais se poser, que ça doit être finalement réservé pour cela, au détriment de cela, ou je ne sais pas quoi. On est largement au-delà, en fait, de ce débat-là.
Ça me fait penser, dans ce que vous dites, aussi à Jean-Luc Nancy, qu'un autre philosophe français, qui dit que finalement, c'est la question du comment être à plusieurs, le comment être avec, ce qui permet aussi d'enlever les notions de celui-ci, de l'étiquette, de ci et de là, mais c'est bien, on est complètement livré dès notre arrivée dans le monde qui est déjà en mouvement, à de la cohabitation, de la coexistence, de la coprésence, et que c'est cette alchimie, finalement, qui est la permanente à laquelle on doit se confronter, et qu'il n'y a pas d'être singulier sans un autre être singulier. Et là, on ne parle plus ni de handicap, ni de cas sociaux, mais bien d'un ensemble d'une communauté, d'individus qui fonctionnent ensemble. Et c'est vrai que c'est là où on voit bien aussi, et je rebondis juste par rapport à ce que vous disiez, par rapport au circuit, au système, et je dirais le système de l'art il succombe lui aussi, c'est-à-dire il a sa hiérarchie, il a ses entre-soi. Et c'est pour ça que je vous posais cette question tout à l'heure, les modes de lieu, de pouvoir de présentation du travail que vous faites. On voit bien qu'on est obligé de créer des espaces pour pouvoir faire que la représentation existe, mais qu'on a encore du mal à pouvoir franchir des espaces habituels de présentation. D'ailleurs, d'être présent dans un festival habituel, d'être présent dans un centre culturel habituel, sans être obligé de créer un vecteur supplémentaire, parce que effectivement, et vous avez raison, on a un manque de lisibilité, qu'il faut y contribuer. Et là, on voit bien qu'on lutte à quelque chose de très important aussi, de forme de représentation. Pardon, allez-y, Lise Gromion.
Je voulais juste réagir aussi, effectivement, par rapport à ça, en disant, au fond, que comme vous parliez de formation aussi, c'est une formation plus générale sur le changement de regard. Et on voit dans les recherches qu'on a pu mener aussi, que la manière dont l'enseignant, par exemple, reçoit un élève, dans la mesure où il pense que c'est inné, hein, on est entre l'inné et l'acquis, et dans la mesure où il pense que c'est comme ça, il y a ceux qui naissent avec, puis ceux qui naissent sans, et qu'il n'y a pas d'évolution possible, au fond, eh bien, toute sa pédagogie, que ce soit musicale ou scolaire, va être imprégnée de cette idée. S'il entre avec l'idée qu'on est tous des êtres qui évoluons, qui nous développons, qui ont du potentiel, eh bien, ça change complètement le regard. Mais ça change la pédagogie aussi, qu'elle soit musicale ou qu'elle soit à l'école. Et donc, ça permet d'avoir une diversité où on entre, où le professionnel devient un professionnel capable de s'adapter. Et donc, l'école s'adapte ou la musique s'adapte à la diversité.
Alfonso, je pense aussi on pourrait poser exactement peut-être... Les mêmes questions se posent, je dirais, même par rapport au médico-social, parce que les mêmes questions qu'on vient d'entendre avec Lise Gromion et Sylvain Jacquard, il y a aussi comment une institution médico-sociale accepte, comprend, saisit l'importance de faire qu'effectivement qu'il y a l'accompagnement des personnes, qu'il y a l'accompagnement psychique, santé, tout ce qui peut être autour psychologique de la personne, mais en même temps, il y a ce qu'elle est, il y a ce que peut être son chemin de vie, et comment on va accompagner ce chemin de vie, et notamment, comment faire en sorte qu'il y ait une vraie pratique culturelle en rapport avec des souhaits des différentes personnes, des usagers, des bénéficiaires. Mais que là aussi, on se rend compte qu'il y a des freins, il y a des résistances, il y a souvent, quelquefois, ils font un petit peu leur activité culturelle, c'est bien, ça nous permet mais en même temps, on va peut-être pas aller jusqu'au bout du questionnement pour se dire qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce que ça veut dire, comment on peut aider ces personnes, et je pense à Gilles et à Léa, aller jusqu'au bout de ce que peut-être cette perception et cette envie de porter très loin le projet musical dans lequel ils se sont engagés.
Évidemment, nous, on est là pour les aider. Hein, on est des accompagnateurs. Et évidemment, on travaille quand même avec des personnes en situation en difficulté.
Bien
ça, il faut l'admettre, parce que c'est comme ça. Donc, il faut faire avec. Il faut faire avec ces difficultés. Mais justement, notre objectif, c'est d'accompagner ces bénéficiaires avec leurs difficultés et en luttant contre les préjugés qu'il y a dans cette société, parce que c'est clair, il y a des préjugés. Souvent, le mot « handicap » est synonyme. Hein, le mot « handicap » est attribué à « incapacité ». On fait le lien. Ces personnes en situation de handicap sont incapables de faire...
On est sur les banques.
Si, tout à fait. Non, grâce à la musique, grâce au concert, et au partage avec le public, c'est les gens, la population, peut se rendre compte qu'ils sont capables de chanter, de jouer, ils peuvent le faire bien, hein, absolument. C'est une... Finalement, c'est une reconnaissance de leur capacité par la population. Et cette reconnaissance, ça donne ils existent grâce à la reconnaissance de ces gens qui viennent au concert. Et tout d'un coup, ils sont scotchés parce que le chanteur, la chanteuse chante bien. Oui.
Et même... je vous demanderai peut-être à Sylvain Jacquard de réagir pour aller dans la suite de vos propos. Il peut aussi arriver dans cette écoute des potentialités, de ces singularités de ces personnes. Et là, on va toucher peut-être le rapport esthétique et on va toucher le rapport aussi à la norme. Qu'eux aussi, ils peuvent être dans leur manière de chanter, dans leur manière de jouer, d'être dans des postures aussi qui sont en dehors ou qui flirtent à la marge ou qui flirtent à la norme aussi de leur manière de faire. Et donc, comment on peut arriver aussi à Je dis tout simplement, je peux peut-être chanter, mais c'est ma manière, mais qui va être en dehors des modes de représentation habituels de ce que peut-être le beau chanter ou le acceptable dans ce que l'on peut accepter dans le mode aussi de hiérarchisation, peut-être du milieu culturel et de ses lieux de diffusion. Il y a aussi, ça oblige peut-être à ouvrir le vecteur esthétique beaucoup plus largement, en tout cas de sortir aussi de ces normes habituelles.
Oui, tout à fait. En tout cas, moi, j'essaie toujours d'utiliser ce qui est déjà là. Je ne veux pas imposer des choses. Après, c'est vrai que Léa, Gilles, mais aussi tous les autres musiciens écoutent beaucoup de musique moderne, donc sont influencés par cette musique-là. Donc, c'est vrai qu'on s'approche assez de la musique contemporaine, si on veut dire comme ça, la musique que les jeunes écoutent aujourd'hui. Mais quand il y a quelque chose de différent, ah bah là, on le garde, parce que c'est leur spécialité, parce que c'est leur...
Sylvain Jacquard, voilà. Parce que je trouve que là, il y a un endroit important qui le rapport esthétique
et
l'ouverture générale que l'on doit avoir, justement, pour accueillir ceux qui ne viennent pas de soi, mais d'ailleurs.
Moi, je dirais qu'on est au XXIe siècle. Et au XXIe siècle, il y a quand même quelque chose d'assez extraordinaire dans les frontières entre les différentes formes d'art, c'est-à-dire qu'elles deviennent tellement tenues qu'on n'arrive plus à savoir exactement de quoi on parle. En d'autres mots, je pense qu'aujourd'hui, ce qui est surtout intéressant, c'est une quête vers autre chose, vers une nouveauté, vers l'inattendu, vers une esthétique qui n'est pas forcément une esthétique normée. En d'autres mots, je pense que quelle que soit la proposition de l'artiste d'ailleurs, il y a une ouverture aujourd'hui vers se laisser surprendre finalement. Donc je pense j'espère du moins qu'on a dépassé aujourd'hui ce jugement esthétique qui fait qu'on n'est pas ouvert vers d'autres sons, qu'ils soient, ce soit des bogorithmes ou que ce soit autre chose.
Merci Sylvain Jacquard. Alors, Gaëtan Baucher, après, à l'issue de cet échange finalement... plein de motivation pour poursuivre une aventure comme celle de Court-Circuit.
Exactement, ouais. Mais moi je suis ravi d'entendre tous vos témoignages à chaque fois de là où vous partez, c'est à la fois émouvant et galvanisant. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de valoriser sans stigmatiser, donc on flirte sur une frontière qui est toujours un petit peu... voilà, c'est toujours difficile de naviguer dans une zone où à la fois on respecte les différences, on les valorise, mais on ne les stigmatise pas, on les projette pas comme carte de visite. Donc on essaie de... Peut-être on a un événement qui pourrait être plus facilement, je dirais, identifiable. On pourrait dire, ça c'est le festival musique et hors normes, et je sais pas quoi, voilà. Mais à la fois, nous, ce qu'on aimerait, c'est normaliser la démarche du festival, à savoir que la question ne se pose plus, ce que disait Sylvain tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on puisse dépasser, en fait, qu'on puisse un jour enlever art inclusif, qui est finalement assez prétentieux en plus, qu'on puisse enlever ça et qu'on se dise « Ah, il y a ce petit festival sympathique et il y a de la surprise en fait, il y a des choses... »
Il nous offre plein d'inattendus.
Exactement, de l'inattendu, des rencontres et du mélange sur scène, dans le public, voilà.
Eh bien, c'est ce qu'on souhaite vivement, Gaëtan Baucher. Voilà, nous arrivons au terme de notre échange. Encore un mille merci à vous. Pour cet échange. Cette émission de Résonance sera rediffusée mardi prochain de 13h à 14h, puis dimanche de 20h à 21h. Vous pouvez réentendre et écouter cette émission où vous voulez, quand vous le souhaitez, en la podcastant sur le site de Résonance Contemporaine, www.résonancecontemporaine.org, ou sur le site de Radio B, www.radio-b.fr. À très vite et très belle journée sur Radio B.